VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 16h en temps universel, midi à Washington. Bonsoir, bienvenue. Le groupe djihadiste en Sardine a revendiqué ce mardi les attaques du week-end dernier contre deux localités du Mali proches de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire et menacé de lancer des attaques dans ces deux pays. Nous revendiquons l'attaque de Naha et celle de Fakola, terre d'islam, pour punir les ennemis de l'islam, a déclaré par téléphone le prédicateur radical malien Ismaël Khalil, membre dans Sardine, promettant que le groupe allait multiplier les attaques en Côte d'Ivoire, au Mali et en Mauritanie, des pays qui travaillent avec les ennemis de l'islam, rapporte l'agence France Presse. La compilation des résultats se poursuivait ce mardi au Burundi, sans grand suspense, au lendemain des résultats d'élections législatives communales qui, selon l'AFP, devraient consacrer la victoire du parti du président Pierre Nkurunziza et de ses alliés. L'opposition et la société civile qui avaient appelé au boycott ont fustigé une parodie d'élections. De son côté, la communauté internationale a quasi unanimement dénoncé la tenue de ces scrutins par les autorités burundaises, sourdes aux appels à les reporter. Jacques Aristide.
Les candidats élus ne seront pas nos députés. Ils ne nous représenteront ni au Conseil communal ni au Parlement. Ils tenteront de représenter leur maître Nkurunziza, mais le pays nous appartient, nous ne l'accepterons pas. Écrit sur Facebook un des dirigeants de la contestation pacifique Nini Nahazwe. L'Union européenne, principal partenaire du Burundi, a qualifié la tenue de ces élections de fait grave, susceptible d'exacerber la crise et menacé de mettre en branle les mécanismes menant à la suspension de sa coopération avec le pays, très largement dépendant de l'aide extérieure. Les États-Unis se sont dit profondément déçus car ces législatives ont été organisées dans des conditions terriblement inadéquates. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, se dit pour sa part préoccupée par la grave situation politique et sécuritaire au Burundi.
Le retour d'Ebola au Libéria, un jeune homme de 17 ans est décédé de la fièvre hémorragique seulement 7 semaines après que l'Organisation mondiale de la santé eut déclaré l'éradication de la maladie du virus mortel. Les autorités sanitaires tentent de déterminer comment le malade a contracté le virus. Félix Yepassi Zembrou.
Le jeune homme est décédé le 24 juin dans le comté de Marguibi, loin des frontières de la Guinée et de la Sierra Leone, les deux autres foyers de l'Ebola. Le ministre adjoint de la Santé, Tolbert Nyenswa, en charge de la lutte contre Ebola du Libéria, a fait savoir que ses services ignorent comment l'adolescent a contracté la maladie, mais une enquête a été ouverte et il a exhorté les populations à ne pas céder à la panique. Un message qui semble être tombé dans des oreilles de sourds, étant donné le traumatisme dans lequel baignent les populations, Confort Freeman, mère de 4 enfants, ne peut s'empêcher d'être inquiète.
Nous, les grandes personnes, nous pouvons prendre des précautions, mais les enfants ne peuvent pas en faire autant. Donc je me sens si diminuée ce matin. Nous mettons notre foi en Dieu. Avec lui, tout est possible.
Le virus Ebola a tué plus de 11 100 personnes depuis le début de l'épidémie à la fin de décembre 2013 au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone.
Il est 17h03 à Monrovia.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Maintenant, les activités du géant français du nucléaire Areva au Niger, longtemps accusé de ne pas contribuer par des actions concrètes au développement du pays, notamment dans la région où il exploite l'uranium. Depuis plus de 40 ans, Areva veut absolument prouver le contraire. La compagnie vient de signer avec le gouvernement nigérien une convention de financement d'un projet de développement local d'un montant d'environ 12 milliards de francs CFA. Abdul Razak Idrissa est notre correspondant à Niamey.
La convention qui a été signée l'a été pour le financement de la phase d'implantation même du projet, puisqu'il y a eu déjà 2 années concluantes d'expérimentation chez Goumaman et le chef du projet.
Dans la phase pilote, nous avons mis en valeur 120 hectares pour un objectif physique de 100 hectares. Nous sommes donc arrivés à 120%. Le projet Iraser a démontré quels sont les systèmes d'irrigation les meilleurs pour la région, quelles sont les cultures les meilleures pour la région et quels défis auxquels nous allons faire face, notamment l'organisation des producteurs, la bonne gestion et surtout la commercialisation. Pour la phase de développement, la phase d'implémentation, nous allons intervenir dans le Iraser sur une 20aine de sites
sites.
Mais également, nous allons rêver, peut-être faire jusqu'à 60 sites dans l'Aïr, les petits jardins privés. Combien? Le tout, c'est 1000 hectares que nous visons pour les 5 ans.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis ce mardi une législation plus dure pour lutter contre le terrorisme au lendemain de la mort du procureur général Hicham Barakat dans un attentat spectaculaire dans la capitale. M. Barakat, âgé de 64 ans, est le plus haut représentant de l'État tué depuis le début de la vague d'attentats djihadistes depuis 2013. Ces attaques se sont multipliées depuis que M. Sissi, alors chef de l'armée, a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013 et orchestré une sanglante répression contre ses partisans. Les ministres des Finances de la zone euro discutaient ce soir par téléconférence de la dernière proposition grecque, mais la Grèce était sur le point de se retrouver à défaut de paiement. Athènes devait rembourser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international, le FMI, d'ici minuit, heure de Washington. Mais le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a prévenu aujourd'hui que cette somme ne serait pas remboursée à la date prévue. La Grèce a annoncé cet après-midi avoir soumis à ses créanciers un nouveau projet d'accord sur 2 ans avec le mécanisme européen de stabilité. Il permettrait de couvrir ses besoins financiers et s'accompagnerait d'une restructuration de la dette. L'objectif serait de faire en sorte que la Grèce demeure in extremis dans la zone euro. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau mis en garde ce mardi contre un accord entre l'Iran et les grandes puissances permettant, selon lui, à Téhéran de développer des armes nucléaires. M. Netanyahou n'a eu de cesse depuis des mois de dénoncer tout accord avec l'Iran et laisse peser la menace d'un possible recours à la force pour empêcher la République islamique de se doter d'un programme nucléaire militaire. Et les pourparlers donc sur le nucléaire iranien vont se poursuivre jusqu'au 7 juillet. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui des officiels américains. Les négociateurs s'étaient donnés jusqu'à aujourd'hui, 30 juin, pour arriver à un accord définitif. Selon la porte-parole américaine Mary Harf, les participants ont décidé d'aller au-delà de cette date butoir pour donner plus de temps aux négociations pour arriver à une solution à long terme. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, qui est revenu à Vienne après des consultations à Téhéran, a rencontré le secrétaire d'État américain John Kerry, qui dit avoir eu une bonne conversation avec son homologue iranien. Les négociateurs ne révèlent rien sur les détails de ces négociations entre les États-Unis, leur partenaire du P5+1 et l'Iran.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Les rebelles chiites houthis au Yémen ont affirmé avoir tiré tôt ce mardi un missile Scud sur la base militaire saoudienne d'Al-Salil dans la région de Riyad, mais l'Arabie a contesté cette information. L'Arabie saoudite est à la tête depuis le 26 mars d'une coalition menant une campagne de raid aérien contre les rebelles houthis au Yémen. Les rebelles houthis qui ont pris le contrôle de la capitale yéménite Sanaa en septembre avant d'étendre leur présence à d'autres régions du Yémen. Ils sont alliés à une partie de l'armée restée fidèle à l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Leur arrivée à Aden dans le sud a poussé le président Abd Rabo Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale, à s'exiler en Arabie saoudite. Ici même aux États-Unis, la Cour suprême américaine a jugé hier lundi, conforme à la Constitution, une méthode controversée d'exécution par injection létale. Il s'agit du recours à la drogue midazolam, utilisée comme un anesthésique pour rendre le condamné inconscient avant sa mise à mort. Les États américains souffrent d'une pénurie de barbiturique pour exécuter, d'où leur utilisation du midazolam. Mais plusieurs exécutions avec cette drogue ont été apparemment accompagnées de souffrances chez les condamnés, selon l'agence France Presse. On termine ce journal avec une nouvelle économico-sportive. Les footballeurs étrangers du championnat de Grèce craignent une forte dévaluation de leur contrat en cas de sortie du pays de la zone euro, alors que la Grèce affronte un risque imminent de défaut de paiement. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le quotidien sportif Goal. Selon Goal, plusieurs agents de joueurs ont déjà contacté les clubs concernés comme l'Olympiakos, le Panathinaikos, Athènes, le Parc Saloniki, leur demandant une clause pour que, dans le cas d'un changement de monnaie, les joueurs soient payés dans la monnaie convenue antérieurement. Merci de nous avoir suivis, Jean-Roger Billon. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.